Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, quand la mer se fâche. Levée de l'urgence COVID-19, nous avons le devoir d'en finir. Et rien à faire de ta carrière. Bonne écoute.
Quand la mer se fâche, un texte de Mathieu Perrault, paru le 6 mai 2023 dans La Presse. On a beaucoup parlé de la hausse du niveau de la mer. Ce n'est pas seulement la hausse moyenne qui pose problème, mais les extrêmes, lors de tempêtes ou de marées inhabituelles. Ces extrêmes sont difficiles à modéliser, ont témoigné des océanographes lors du dernier congrès annuel de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, AAAS, début mars 2023 à Washington. Marées et densité. Plus de 20 cm depuis 1900. De 60 cm à plus d'un mètre d'ici 2100, si l'humain cesse d'émettre des gaz à effet de serre d'ici la fin du 21e siècle, la hausse du niveau de la mer fait peur. Pour comprendre son impact sur les riverains des océans, ces chiffres ne suffisent pas, a expliqué Philip Thompson, océanographe de l'Université d'Hawaï, au congrès de l'AAAS. Il faut tenir compte de plusieurs autres facteurs, la pente et la nature des rives, les variations des marées, l'expansion thermique de l'eau quand elle se réchauffe. Son collègue de la NASA, Benjamin Hamilton, aussi océanographe, a ajouté que les phénomènes météorologiques comme El Niño et La Niña jouent aussi un rôle. Il faut tenir compte de tout pour vraiment voir l'impact sur un site, a dit M. Hamilton. Les habitudes des populations locales doivent aussi être prises en compte. Quand j'habitais à Norfolk, en Virginie, une rue voisine était régulièrement inondée à marée haute, dit M. Hamilton. Les gens qui habitaient là étaient habitués à tenir compte des prévisions de marée pour prévoir où stationner leur voiture, par où passer pour aller au travail ou amener les enfants à l'école. Ils étaient prêts. Mais si les choses changent et que des inondations touchent plus régulièrement des rues actuellement rarement touchées par les marées, les habitants de ces rues peuvent être pris par surprise. M. Thompson a donné en exemple le parc national Puonua Ho'onono à Hawaï. Un projet de recherche qu'il a mené montre que les inondations extrêmes survenant tous les 10 ans ne changeront pas beaucoup dans le parc dans les prochaines décennies, mais les inondations à marée haute deviendront 10 fois plus fréquentes d'ici 2040, touchant notamment la zone la plus fréquentée du parc. Et comme ces marées hautes extrêmes sont souvent regroupées, cela signifie que plusieurs fois par année, cette zone populaire du parc deviendra inaccessible pendant plusieurs jours. La marée descend, mais revient le lendemain, alors on ne peut pas vraiment continuer les activités normales, nous dit Philip Thompson, océanographe de l'Université d'Hawaï. Le problème de la hausse du niveau de la mer est compliqué par les mouvements de la croûte terrestre. M. Thompson travaille aussi dans les îles Samoa américaines qui s'enfoncent de plus en plus vite dans l'océan Pacifique. Un affaissement appelé « subsidence » qui double l'impact de la hausse du niveau de la mer. Plus près de nous, ce problème de subsidence touche aussi les îles de la Madeleine. La Lune. Un cycle lunaire de 18 ans, durant lequel la Lune atténue les marées pendant 9 ans, puis les accentue pendant 9 autres années, complique les choses. Messieurs Hamilton et Thompson ont publié en 2021 dans la revue Nature Climate Change une étude montrant que, d'ici le milieu des années 2030, le cycle lunaire diminue l'intensité des marées, ce qui masque l'effet de l'augmentation du niveau de la mer. Cela signifie qu'à Honolulu, les inondations à marée haute vont passer de 2 à 63 par année entre 2035 et 2045, à Boston de 6 à 46 par année et à Saint-Pétersbourg, en Floride, de 6 à 67 par année. On utilise le terme d'inondation gênante, nuisance flooding, pour désigner ces marées extrêmes. Mais si on n'adapte pas les infrastructures côtières, on ne parlera plus de gêne, mais d'un impact réel sur la vie quotidienne, dit M. Hamilton. Les inondations de nuisance sont définies par une marée un demi-mètre plus élevée que la moyenne annuelle historique. Vous écoutez « Quand la mer se fâche », un texte de Mathieu Perrault, paru le 6 mai 2023 dans La Presse. L'Asie. La capitale philippine a été durement frappée par la tempête Nalgae en octobre dernier. En 2100, Manille devrait connaître des inondations entre 18 et 96 fois plus fréquentes qu'aujourd'hui. Les mégapoles asiatiques, particulièrement celles des pays émergents, sont vulnérables à la hausse du niveau de la mer. Alors, même que le congrès annuel de l'AAAS battait son plein, une étude publiée dans Nature Climate Change par le CNRS français et le Centre national de recherche atmosphérique de Denver montrait que parmi les régions les plus vulnérables aux inondations en 2100, on trouve l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la côte ouest américaine. Dans ces deux derniers cas, la richesse de ces pays permettra de financer l'adaptation à cette fréquence accrue d'inondations. Ce n'est pas le cas dans l'Asie du Sud-Est. Pire, la mousson dans cette région du globe aggrave le problème. À Manille, les inondations seront entre 18 et 96 fois plus fréquentes. Une organisatrice de la séance sur les extrêmes côtiers du congrès de l'AAAS, Krupali Kunch, de l'Université de Notre-Dame, a justement étudié l'impact de la hausse du niveau de la mer à Bombay, en Inde, plus particulièrement sur les quelques millions de petits pêcheurs de la côte est de la péninsule de cette mégapole de 13 millions d'habitants. Ils dépendent de l'accès au marché de Bombay. Ce commerce est beaucoup plus compliqué lors d'inondations. Selon mes calculs, au moins 1 million de personnes seront affectées par la difficulté pour les pêcheurs de continuer à gagner leur vie de manière stable, dit Krupali Kunch de l'Université de Notre-Dame. Et la Méditerranée. Madame Kunch est spécialiste de la numérisation des sites patrimoniaux pour pouvoir les stabiliser avec des interventions architecturales. Elle a notamment aidé à planifier les travaux de sauvetage du Taj Mahal en Inde, fragilisé par un tremblement de terre en 2015, et établi les zones les plus à risque de dégradation dans le Forum romain, dans la capitale italienne. Ces dernières années, elle a lancé un programme de numérisation des infrastructures côtières pour aider à les protéger des inondations plus fréquentes. Beaucoup de sites du patrimoine mondial sont sur les côtes, nous rappelle Krupali Kunch de l'Université de Notre-Dame. En 2018, une étude dans Nature Communication a conclu que 80% des sites du patrimoine mondial de la Méditerranée seront dans une zone inondable en 2100, notamment la Casbah d'Alger et la ville médiévale de Rhodes. Le cas de Venise. La cité des Doges est l'une des premières à avoir agi face au problème de la montée des eaux. Depuis 2020, un système de barrière appelé MOES, Module Expérimental Électromécanique, se hisse à l'embouchure de la lagune de Venise lors des marées exceptionnelles, appelée Acqua Alta. MOES a notamment protégé Venise lors d'une Acqua Alta record de 2 mètres en novembre dernier. Mais des modélisations récentes ont montré que MOES devrait être activé tellement souvent en 2100 que la lagune risque d'avoir des problèmes d'oxygénation. un satellite à la rescousse. Pour bien modéliser les risques d'inondation, il faut des données très précises. Messieurs Thomson et Hamilton ont louangé à Washington les données du satellite canado-américain SWOT, lancé en décembre dernier. Il permet notamment de voir des courants et boucles océaniques de seulement 20 km de diamètre. En savoir plus. 600. Nombre d'inondations gênantes aux États-Unis en 2019. Source: National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, des États-Unis. 600 000. Nombre de personnes touchées par des inondations gênantes aux États-Unis en 2019. Source: NOAA. C'était « Quand la mer se fâche », un texte de Mathieu Perrault, paru le 6 mai 2023 dans La Presse. Levée de l'urgence COVID-19. Nous avons le devoir d'en finir. Un texte de Joanne Liu, paru le 6 mai 2023 dans La Presse. Dr. Joanne Liu est professeure à l'École de santé des populations et de santé mondiale, membre du panel indépendant sur la COVID-19 de l'OMS et ancienne présidente de Médecins sans frontières. Le verdict est tombé. À la suite de la 15e réunion du comité d'urgence du règlement sanitaire international et sous la recommandation de ses membres, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a levé le statut d'urgence de santé publique de portée internationale, USPPI, sur la COVID-19. Ce moment était attendu avec appréhension par certains et avec un grand soulagement par d'autres, qui auront enfin le sentiment d'avoir la bénédiction de passer à autre chose. Pour rappel, la définition d'une USPPI implique que la situation est grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue, qu'elle a des implications pour la santé publique dépassant les frontières nationales de l'État affecté et qu'elle pourrait nécessiter une action internationale immédiate. L'exemple de l'Ebola. Une déclaration du USPPI ne connaît pas de nuance. Elle est une urgence de portée internationale ou elle n'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux. L'exemple d'Ebola nous permet de bien comprendre. Le 8 août 2014, après plusieurs mois de lobbying, l'OMS a déclaré l'Ebola urgence de santé publique de portée internationale et à sa révocation le 29 mars 2016, il y avait toujours de nouvelles chaînes de transmission, mais de fréquence décroissante. Le comité considérait que la transmission du virus Ebola en Afrique de l'Ouest ne constitue plus un événement extraordinaire. Sur le terrain, je me rappelle que les équipes de Médecins sans frontières, MSF, traitaient encore quelques personnes infectées et faisaient surtout des suivis de contacts avec grande diligence. Tous étaient obsédés d'en arriver au patient zéro, d'en finir avec Ebola. La levée d'une USPPI signifie que la phase d'urgence aiguë est terminée, mais pas la COVID-19. Nous rentrons dans une séquence de post-urgence immédiate, où il y aura malheureusement encore des impacts tragiques de la COVID-19 par ses infections, ses hospitalisations, ses décès, ses symptômes résiduels de long terme, mais probablement en moindre nombre et, osons l'espérer, de façon décroissante sur la durée. Par ailleurs, dans le camp des appréhensions, la crainte est que nous baissions les bras complètement sur les efforts déployés pour la maîtrise de la COVID-19 et de ses répercussions. Le virus demeure en circulation. Il continue d'évoluer et peut provoquer d'autres vagues. C'est pour cette raison qu'il faut continuer de le suivre de près et d'être prêt à s'adapter. Encore une fois, ce n'est pas fini. Dans le camp des soulagés, je soutiens le passage à une autre phase COVID-19, mais mon souhait est de résister à la tentation de passer à l'amnésie collective totale. Des leçons à retenir. Je nous exhorte à faire le point. Un état des lieux sur notre réponse à la pandémie pour déterminer les meilleures pratiques et celles à mettre de côté. Car aucun de nous ne veut remettre sa vie professionnelle ou personnelle en pause pour de longs mois d'affilée, essuyer collectivement une contraction économique ou de ne pas pouvoir accompagner ses proches en fin de vie. Il faut finir la job en apprenant. Nous ne devons pas commettre la double faute de ne pas avoir été prêts et de n'avoir rien retenu. À l'échelle mondiale, nous avons devant nous des occasions clés dans les prochains mois avec la révision du règlement sanitaire international, mai 2024, la négociation d'un accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies souvent référées au traité pandémique, printemps 2024, la déclaration politique sur la prévention, préparation et réponse aux pandémies à l'Assemblée annuelle des Nations unies, septembre 2023. Ces différents mécanismes internationaux doivent reconnaître haut et fort dans la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies trois principes de base, soit la primauté des droits humains, la nécessité de l'équité dans l'accès aux contre-mesures, vaccins, traitements, tests, l'inclusivité dans la gouvernance mondiale. Le Canada se doit d'être le porte-voix de ces principes. C'est à ce prix seulement qu'on aura une chance de faire mieux collectivement la prochaine fois. C'était « Levée de l'urgence COVID-19, nous avons le devoir d'en finir », un texte de Joan Liu, paru le 6 mai 2023 dans La Presse.
Rien à faire de ta carrière. Un texte de Rosemée Autonne T. Morin, paru le 7 mai 2023 dans La Presse. Rares sont les espaces où notre titre professionnel n'est d'aucun intérêt. C'est commun de briser la glace en demandant à autrui ce qu'il fait dans la vie. Une question lancée comme une perche pour faire connaissance. Un réflexe, ou presque. Vous vous rappelez, plus tôt cet hiver, je suis allée me baigner dans le fleuve Saint-Laurent avec un groupe qui médite dans l'eau très froide? Eh bien, j'ai tellement aimé ça que j'y suis retournée chaque semaine depuis. Ça fait donc une douzaine de fois que je vois les mêmes gens, qu'on papote et qu'on brave les éléments au nom de la relaxation. Ça rapproche, veut pas. Il y a quelques jours, j'ai réalisé quelque chose d'étonnant. Je connais le nom de mes compagnons de baignade. Je sais que certains ont trois enfants, qu'ils croient en différents dieux, aiment se lever à l'aurore ou faire du vélo d'hiver. Je sais que l'une d'elles fait d'adorables sons quand elle plonge dans l'eau et qu'ils font tous des étreintes de qualité en guise de salutation. Mais j'ignore ce qu'ils font professionnellement. Je me suis forgé une idée d'eux sans cette information qui va habituellement de soi. Enfin, un espace dont le boulot est complètement évacué. Des affinités se développent, une solidarité s'opère, mais les enjeux de classe restent à la maison. même pas moyen d'être tenté par une certaine hiérarchisation. Le titre n'est tellement pas important que personne ne pense à le nommer. C'est intéressant de deviner les valeurs d'autrui à travers ses gestes plutôt que par son rôle social. C'est un exercice d'écoute qui nous donne envie d'être vus, nous aussi, pour autre chose que ce que nous vaut un chèque de paye. C'est quelque chose que je veux vivre plus souvent. Ne pas dire notre titre professionnel, c'est comme voyager, là où personne ne nous connaît. Ça peut être très déstabilisant, mais aussi très libérateur. On peut adopter des comportements qu'on n'a pas en temps normal. Se réinventer, dit Julie Ménard, psychologue du travail et professeure au département de psychologie de l'UQAM. Comme chaque fois que je réfléchis à un enjeu qui concerne le boulot et l'identité, je me suis tournée vers la psychologue du travail pour mieux comprendre ce qui m'habitait. La professeure au département de psychologie de l'UQAM m'a d'abord expliqué pourquoi on veut spontanément savoir ce que les gens font dans la vie. Poser cette question, c'est demander à l'autre ce qu'il définit. Il va souvent répondre en parlant de son travail, mais il pourrait aussi dire qu'il est père ou passionné par un sport, par exemple. En fait, on veut savoir quel est son rôle pour se positionner par rapport à celui-ci. Parce qu'avec les rôles viennent des attentes. La valeur qu'on accorde à une personne ne dépend pas de ce qu'elle fait pour mettre du pain sur la table, bien entendu. Mais est-ce qu'on est plus enclin à faire confiance à un médecin? À remarquer la créativité d'une architecte? À s'attendre d'une première ministre qu'elle ne fasse pas la fête? Ça se pourrait. D'ailleurs, selon Julie Ménard, on est conscient des attentes projetées sur soi et on a tendance à agir de manière à y répondre. Cela étant, le boulot, qui a longtemps été au cœur de notre identité, est en plein bouleversement et sa place pourrait être appelée à se transformer. On voit qu'il y a un changement dans le monde du travail, souligne la psychologue. On devient plus flexible par rapport à notre emploi, notre lieu de travail, notre horaire, et peut-être même dans la saillance de notre titre professionnel. Ça se pourrait que ce rôle ne soit plus le premier qui vienne définir notre identité. Au-delà du manque de main-d'œuvre, des démissions silencieuses et grandes réorientations récentes, l'évolution de la composition du marché du travail a aussi un rôle à jouer dans cette transformation. Au Québec, le taux d'emploi chez les femmes était de 37,4% en 1976, selon l'Institut de la statistique du Québec. En 2022, il était plutôt de 58,3%, 64,8% chez les hommes. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les femmes sont socialisées de manière à valoriser d'autres rôles que celui de travailleuse, qu'elles le veuillent ou non. Prenons simplement celui de mère ou d'épouse. Comme il y a plus de femmes sur le marché du travail, le rôle professionnel a peut-être une saillance moindre dans notre identité, au profit d'autres rôles importants, avance Julie Ménard. Qu'importe notre genre, on peut, de plus en plus, se définir comme amis, parents ou baigneurs nordiques si ça nous chante. Après, ce n'est pas si surprenant que mes copains d'eau froide et moi ne jasions pas de boulot. Et si les lieux où le travail ne vaut pas grand-chose demeurent rares, les cercles qui se créent autour d'une activité précise ont plus de chances d'être du lot. C'est la passion commune qui nous permet alors de cerner les autres. Peut-être est-ce le cas dans votre ligue de hockey ou votre cercle de lecture, par exemple. Mais attention, il demeure qu'on a besoin d'un point de référence pour être à l'aise. Même si on est de plus en plus flexible, on a besoin d'un cadre pour se rassurer, être adéquat socialement et ne pas se sentir maladroit envers les autres, selon Julie Ménard, psychologue du travail et professeure au département de psychologie de l'UQAM. Voilà qui complexifie mon plan. J'en étais à me dire qu'on devrait éviter de questionner les gens quant à leur boulot pour créer des espaces plus libres. Mais ce choix pourrait se révéler très inconfortable, selon la psychologue du travail. On est tellement habitué à ce que les gens nous demandent le poste qu'on occupe qu'une personne pourrait croire qu'on ne s'intéresse pas à elle si on ne le fait pas. Il faut être créatif et trouver une autre stratégie. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, alors? On peut demander à la personne ce qu'elle aime faire dans la vie. Au pire, elle répondra « Ma job ». C'était « Rien à faire de ta carrière ». Un texte de Rose Aimé, automne, T. Morin, paru le 7 mai 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.qc.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.